talmudique. West End Avenue, une famille juive de la bourgeoisie aisée. Progressiste de gauche, le père ne rate jamais une occasion de proclamer bien haut ses convictions athées. Souhaitant le faire bénéficier de la meilleure scolarité possible, lui et son épouse ont inscrit leur fils à Trinity School, une école autrefois religieuse mais aujourd'hui laïque et ouverte à tous. Quelque temps plus tard, le fils revient à la maison et dit « À propos, papa, je sais ce que signifie Trinity. » Cela veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À ces mots, le Père, fou de rage, saisit son fils par les épaules et s'écrie « Danny, rentre-toi bien cela dans la tête, nous n'avons qu'un seul Dieu et nous n'y croyons pas. » Émile Mallet, bonjour.
Bonjour Marc Alain.
Émile Mallet, vous êtes essayiste, journaliste et fondateur de la revue Passage. Je crois que cette histoire que rapporte Yerushalmi dans son Moïse de Freud est peut-être la meilleure introduction à la question de l'identité juive et de l'identité en général que pose à la fois la vie et l'œuvre de Freud, qui fut « godless », sans Dieu, selon l'expression de l'historien Peter Gay, « and at the same time very much a Jew ». Contradiction riche, forte et féconde que vous réveillez à nouveau frais dans votre ouvrage qui vient de sortir aux éditions Campagne Première, intitulé « Freud et l'homme juif » avec une préface d'Alef Beth Yehoshua. Un livre sur l'urgence de relire Freud et de comprendre à quel point son œuvre peut nous aider à penser notre actualité au moins sur deux points essentiels, celui de l'identité et celui du nationalisme. Freud, notre contemporain, voilà le parcours que je vous propose. Deux émissions, l'une consacrée à la question de l'identité et la seconde à la question du nationalisme. Ce juif sans Dieu, et très juif, peut sembler étonnant, et pourtant c'est une idée que l'on retrouve souvent dans la culture juive allemande de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Je pense à cette anecdote que rapporte Lévinas à propos de Hannah Arendt, allant voir son rabbin à Königsberg, lui disant qu'elle ne peut pas faire sa bat mitzvah car elle ne croit pas en Dieu, et le rabbin de lui répondre « Mais qui te le demande ?» Juif sans Dieu, mais pas sans spiritualité, sans Dieu, mais pas sans culture juive. Comment vous comprenez cette riche et féconde contradiction ?
C'est effectivement, cher Marc Alain, une riche et féconde contradiction. Freud s'est toujours voulu juif. Il a même précisé à plusieurs reprises qu'il n'avait pas d'autre appartenance. Donc il a une appartenance fondamentale au peuple juif. Mais il a précisé aussi qu'il était un juif sans religion. Il n'a pas dit qu'il était un juif sans Dieu, mais on peut accepter cette définition. Alors quoi en dire ? Il était juif comment ? Il était juif par la naissance, puisqu'il a été circoncis. Il a fait sa bar mitzvah, il avait un rabbin. Donc, au cours de sa vie professionnelle, il a toujours étudié les grands textes, grecs, romains, mais également la Bible. Et par conséquent, il estimait, lui, qu'on n'était pas juif une fois pour toutes, comme on le dit dans la halakha. La halakha dit si la mère est juive, l'enfant est juif. Lui considérait les choses un peu autrement. Il ne contestait pas cette chose-là, mais il pensait qu'un juif devait avoir une identité en mouvement. Et son identité en mouvement à lui, elle rejoint celle de Yeshayahu Leibovitch, qui dit « Il ne suffit pas d'avoir cette identité compacte pour être un bon juif. » Lui, être un bon juif, ça voulait dire qu'il avait étudié les textes, c'était un juif de l'étude, c'était un juif du Midrash, il a fait référence toute sa vie à la Bible, et dans les épisodes à la fois les plus heureux, c'est-à-dire sa vie de famille, et les plus tragiques lors de son exil, on aura l'occasion d'en parler, et en même temps, il a considéré que le particularisme juif nourrissait l'universalité et vice-versa. Il faut savoir qu'à son époque, c'était une gageure de le faire. Et son courage est extraordinaire, parce qu'à l'époque, il y avait deux types d'identité juive. Il y avait ceux qui reniaient complètement leur identité, qui allaient jusqu'à la conversion ou le refus et le déni comme les juifs marxistes, et il y avait ceux qui étaient très religieux, les chassidim, et qui souvent étaient antisionistes. Lui, il n'a été ni antisioniste, ni un juif religieux et un juif authentique. Voyez, cette contradiction que vous soulevez me paraît en elle-même ontologiquement juive.
Ontologiquement juive et est riche de sens. Et dans une des lettres à sa fiancée Martha Bernays, qu'il faut rappeler, qui était la petite fille du grand rabbin de Hambourg, ce qui n'est pas rien, il lui écrit en 1882 « Bien que les formes dans lesquelles les vieux juifs se sentaient à l'aise ne nous offrent plus d'abri, quelque chose d'essentiel, la substance même de ce judaïsme, si plein de sens et de joie de vivre, n'abandonnera jamais notre foyer. » Et presque 50 ans plus tard, en 1930, Freud écrit dans la préface à l'édition hébraïque de Totem et Tabou « Aucun lecteur de l'édition en hébreu de ce livre ne saurait se mettre si aisément dans les sentiments de l'auteur qui ne comprend pas la langue sacrée. » C'est un peu paradoxal, mais bon. « Et devenu totalement étranger à la religion de ses pères, comme à tout autre. Ne peut partager les idéaux nationalistes sans avoir pourtant renié son appartenance à son peuple. Ressent sa spécificité comme juive et ne la souhaite pas autre. Si on lui demandait « Qu'y a-t-il encore de juifs en toi, depuis que tu as abandonné tout ce que tu avais là en commun avec ceux de ton peuple ?» il répondrait « Encore beaucoup de choses, probablement l'essentiel. » C'est quoi cet essentiel, Émile Mallet, cet essentiel sans essentialisme?
Il était essentiellement juif, sans spécification, spécification en latin, de caractère juif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'est toujours réclamé d'une histoire et d'une mythologie juive. Il est même, à cause de ça, fort décrié. Parce que sur un point essentiel, sur la question du peuple élu, il n'a jamais eu une attitude idéologique de gauche ou de droite refusant cette mythologie. Il a même considéré que ce pari d'élection, que ce soit une mythologie, c'est ça qui a forgé la grandeur, la noblesse et la durée du peuple d'Israël. Donc, il ne faisait pas partie de ces gens qui considérait que les religions n'avaient aucune importance. Il s'est instruit des religions. De la même manière, pourquoi j'ai dit qu'il n'était pas un juif sans Dieu, mais un juif hors de Dieu, il n'était pas ce nihiliste que l'on observe dans les frères Karamazov, où on dit « si Dieu n'existe pas, tout est possible ». Et Lacan répond, le grand psychanalyste français, complètement freudien, « si Dieu existe, tout est possible, y compris de pouvoir s'en passer ». C'est là l'anecdote que vous rappeliez au tout début. Eh bien, c'est Freud est de cette catégorie-là, c'est-à-dire qu'il assume une histoire, il assume une mythologie et il considère que cette histoire et cette mythologie font qu'un petit peuple par le nombre puisse encore durer aujourd'hui. Donc son héritage, il est biblique, il est judéen et il est métaphysiquement juif. La deuxième chose, c'est qu'il y a chez lui, et vous l'avez rappelé, la joie du foyer. Il a toujours considéré que brillait en lui une lueur juive de bonheur. Il l'a dit plusieurs fois à son épouse Martha, et on peut même considérer, sans extrapolation sauvage psychanalytique, que cette joie de vivre qu'il trouvait dans son foyer, elle lui a servi pour travailler sur la question de la pulsion de vie. Et donc, le judaïsme a été pour lui une source de bonheur, mais dans les moments les plus importants de sa vie. Je crois qu'il faut rappeler quels étaient ces moments-là. Quand, à la fin du XIXe siècle, il a cherché à imposer la psychanalyse à un milieu académique récalcitrant, il l'a dit, il s'en est expliqué, il allait, comme il disait, chez ses frères juifs du Bnei Brit pour leur parler de ses découvertes. Mais il était complètement honnête. Il a dit « Je ne vais pas les voir pour avancer dans ma théorie. » Peut-être même qu'ils ne partageaient pas. Mais à ce moment-là, j'avais besoin de l'empathie de mes frères juifs pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que le judaïsme chez lui est une source de joie et une source de vie. Et la troisième chose, qui est extrêmement importante, c'est qu'il a toujours considéré que le juif était là pour apporter quelque chose à l'humanité. Et en ce sens, les grands penseurs, que ce soit Pascal, que ce soit Gombrowicz et d'autres, ont toujours considéré que l'essentialité juive, elle était d'apporter quelque chose à l'humanité vers le progrès, vers tout ce qui nous permet finalement d'être un homme, comme dirait Primo Levi.
J'ai lu dans certains commentaires que cette joie, il la voyait dans son nom lui-même, puisque Freud, en allemand, signifie la joie. Et je me suis demandé si il n'y avait pas, malgré tout, dans la psychanalyse, quelque chose qui est lié au judaïsme, dans sa découverte, quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire d'important, pas essentiel au sens de l'essence, mais quelque chose d'important. Et je me suis dit, par exemple, vous citez dans votre livre, et d'ailleurs je tiens à le dire, ce livre est divisé en deux parties, une partie d'une réflexion, c'est en fait une conférence que vous avez donnée, que vous avez mis par écrit, et dans la deuxième partie, c'est un dictionnaire très bien fait de petites phrases thématiques. Et je vous remercie parce que dans une de ces parties, je trouve cette phrase qui m'éclaire beaucoup. Vous savez que Yosef Yerushalmi, dans son livre qui s'appelle « Le Moïse de Freud, judaïsme terminable et interminable », rapporte le fait que des photos avaient été prises en 38 avant son départ pour Londres, et on a trouvé sur ces photos, sur sa table, il y avait des verres à kiddush. C'est-à-dire quelque chose qui est véritablement de l'ordre d'un rituel extrêmement prégnant, si vous voulez. Alors, est-ce qu'il s'en servait? Est-ce qu'il avait hérité? Mais ce qui est intéressant, c'est que par la suite, quand il est parti à Londres en 39 et que des photos ont été reprises, ces verres à kiddush ont disparu. Donc, il y a une énigme par rapport à ces verres à kiddush. Et je me suis demandé pendant très très longtemps, est-ce que c'était vraiment quelque chose d'important pour lui? Et vous citez cette phrase, et je tiens vraiment à vous remercier parce que je pense que ça fait beaucoup avancer les recherches de Freudienne. Il dit, dans l'une des dernières pages de votre livre, vous citez une lettre de Freud à sa belle-sœur Mina, dans laquelle, avec humour, il fait allusion au gobelet du prophète Élie. Je cite « Je suis d'ailleurs, écrit Freud, l'un des juifs les plus pieux, car les pieux n'ont que pour Pessah un siège et un gobelet, et pour Eliaou Anavi, c'est-à-dire le prophète Élie, qui ne vient jamais. » Et moi, j'ai aménagé pour lui une pièce entière. Je ne vois vraiment pas, en effet, à qui d'autre est destinée ma salle d'attente. Émile Mallet.
Écoutez, vous l'avez dit plusieurs choses. Je vais essayer de répondre. D'abord, sur l'essentiel, je reprends juste très brièvement. Il n'y a pas de définition scientifique à l'essentiel juif. Dans mon livre, vous avez rappelé qu'Avraham Yehoshua en a fait la préface, et je l'en remercie. Il rapporte cette anecdote. Ben Gurion, en 1958, a demandé à une cinquantaine de grands écrivains, de grands artistes, de l'aider à répondre à la question « qui est juif ?». Et le prix Nobel, Agnon, lui a dit « il vaut mieux que tu arrêtes avec ça ». Donc, dans le « qui est juif ?», il y a une part qui ne se dit pas. Pourquoi elle ne se dit pas? Et Freud essaie d'aborder la chose sans expliquer scientifiquement, parce qu'il a posé la question aux prochaines générations. Mais aborder la chose en considérant les prochaines générations, c'est typiquement juif. C'est ce qu'a fait Einstein en posant ses équations, qu'ils ne sont décrites et expliquées que 50 ans, un siècle et peut-être dans plusieurs siècles. Donc il y a chez Freud un travail d'anticipation, et donc sur la question juif et l'identité, il s'est refusé à une identité compacte plusieurs fois, et il a toujours considéré que la force du judaïsme était cette identité en mouvement. Il faut le dire, dans notre période de populisme, de nationalisme, de xénophobie et d'antisémitisme très violent, parce que ça revient. Donc ça, c'est une chose importante. Vous avez rappelé dans le livre qu'il y avait deux parties. Pourquoi j'ai fait ces deux parties? c'est pour montrer qu'il y a chez Freud pas d'ambiguïté, mais de l'ambivalence. J'ai voulu montrer que sur les questions importantes, le judaïsme, l'identité, le sionisme, le nationalisme, plein de choses qui nous aident à vivre, Freud ne tenait pas à avoir un point de vue définitif, mais c'était un point de vue qui ressortait de l'écoute de l'autre, d'où l'importance de la clinique. La clinique, chez lui, c'était d'écouter avec empathie son prochain et après, si vous voulez, et en même temps, avoir une dimension anthropologique. Donc j'ai voulu, dans un souci d'honnêteté vis-à-vis de Freud, montrer qu'il avait été ambivalent sur certains sujets, mais avec une pensée forte. Alors vous parlez des vers à qui douche. Effectivement, et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans sa galaxie d'antiquité, à Vienne, il y avait toutes sortes d'antiquités qui venaient d'Égypte, des antiquités grecques, romaines. Enfin, on a trouvé un Capharnaüm en quelque sorte, mais au sens, disons, du pluriel d'antiquités. Mais il y avait aussi beaucoup d'antiquités juives. Vous avez rappelé les vers à Kiddush qui ont disparu, mais il y avait aussi une menorah qui est toujours à Londres, à Maresfield Garden. Il y a toujours une aquarelle. Il y a toujours une aquarelle, mais je crois que c'était plutôt une eau-forte de Rembrandt qui montrait les Juifs à la synagogue. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Freud n'a pas fait le tri dans les antiquités en considérant que l'aspect juif était négligeable. Il a considéré que les civilisations s'enrichissaient mutuellement et si il avait dans son cabinet autant d'antiquités avec des antiquités juives, profanes, grecques, ce que vous voulez, égyptiennes, c'est qu'il a voulu montrer que la grandeur de la civilisation juive venait du fait qu'elle n'avait pas peur de la comparaison avec les autres civilisations. Donc il y a chez Freud un souci constant d'élever la dimension juive et de la porter vers l'universel. Et ça, c'est intéressant à souligner. Parce qu'il y a un point, vous l'avez souligné au début, qu'est-ce qui fait que Freud était authentiquement juif ? C'est qu'il n'avait pas honte de son judaïsme. À la différence, peut-être qu'on en parlera, d'un Marx ou de certaines grandes personnalités qui se sont converties. Chez lui, il n'avait pas de problème existentiel avec son judaïsme. Il en a eu avec son père, mais pas de ce côté-là. Alors, je voudrais terminer avec Eliyahu Hanavi que vous avez cité. Naturellement, ces réminiscences historiques, ces réminiscences bibliques, là, il y a un jeu de mots. Le jeu de mots était que dans son cabinet, au début, il attendait les clients, il attendait les patients. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que l'absence est aussi importante que la présence. Et c'est un thème fondamental de la psychanalyse. C'est-à-dire, quand on extrapole, l'invisible est aussi important que le visible. Le silence est aussi important que la parole. Et contre les juifs religieux, ceux qui font leur prière, la Hamida, c'est à la fois du silence et ensuite la parole qui résonne. Donc il y avait chez Freud ce souci de respecter l'absence. C'est quoi cette absence ? Et c'est là où c'est un travail formidable chez lui. C'est qu'il a voulu montrer que les siècles de civilisation juive n'ont pas toujours été connus. Ils ont été massacrés, ils ont été sacrifiés, ils n'ont pas été connus, y compris des juifs de l'époque. Et donc, c'est une manière pour lui de s'élever contre ce qu'on appelle les amarets, ceux qui ne vont pas vers l'étude, ceux qui ne vont pas vers la connaissance, etc. Tandis que chez lui, il y a un retour permanent à cette étude, à la fois par la parole et par le silence. Once upon a time, you dressed fine, threw the bums a dime in your prime. Didn't you? People called, say beware, dawn. You found a foe, you thought they were all just
Au-delà de l'actualité du Nobel, pourquoi Émile Mallet avoir choisi une chanson de Bob Dylan dans le cadre de cette réflexion sur Freud, l'homme juif?
Si je voulais être provocant, je dirais que Bob Dylan est un juif freudien. Et pourquoi je dis ça? Je vais citer une phrase de Freud. Il dit « C'est l'amour seul qui agit comme facteur de civilisation dans le sens d'un passage de l'égoïsme à l'altruisme. » Pourquoi? Bob Dylan, une voix grave, une voix éraillée, qui porte des silences et des souffrances immémoriales. Il faut savoir que sa famille venait d'Odessa. Elle s'est fixée au Minnesota et lui, à son tour, est parti, comme Moïse, en pèlerin, et il est allé pour apporter un peu d'altruisme et contrer l'égoïsme à cette époque de la civilisation américaine. Donc il y a chez Bob Dylan quelque chose d'universellement juif. Et comme Freud, il n'a pas cherché à enjuiver la psychanalyse. Et Bob Dylan n'a pas cherché à enjuiver ses chansons. Elles portaient quelque chose d'immémorial, elles portaient quelque chose de ce silence dont nous avons parlé. Par ailleurs, je pense que le courage des Nobel, d'avoir couronné Bob Dylan. J'aurais espéré, je vous le dis sincèrement, que le jury Goncourt puisse couronner, par exemple, un grand artiste comme Serge Gainsbourg. Il aurait pu le faire, mais nos littérateurs professionnels ne l'ont pas fait. Et là, nous voyons que le jury du prix Nobel a voulu élever cette chose-là. Pourquoi l'a-t-il fait dans le contexte actuel? Et on en parlera quand il s'agira de l'actualité de Freud. C'est que la jeunesse en Europe et dans le monde est aujourd'hui sacrifiée par un chômage de masse. Une partie de la jeunesse, notamment, qui va s'évader dans des identités meurtrières avec le djihadisme, etc. Une partie de la jeunesse qui n'est pas comprise des princes qui nous gouvernent. À ce moment-là, les Nobel ont considéré que faire retour à cette jeunesse et lui montrer qu'il y avait une espérance, c'était couronner quelqu'un comme Bob Dylan. Donc c'est un choix éminemment politique, mais c'est également un choix poétique, parce que nous le savons, nous, à quel point la poésie de rue, la poésie des troubadours, parce qu'à travers Bob Dylan, c'est toute la beat génération, c'est tout ce qui s'est exprimé pendant un siècle aux États-Unis qui a été couronné. À travers lui, c'est Leonard Cohen, c'est John Baez, si vous voulez, c'est tous ces gens qui se sont mis à chanter pour apporter quelque chose du bonheur à l'humanité et notamment aux jeunes. C'est pour ça que je crois que c'était un choix judicieux. Au-delà de ça, à titre personnel, j'aime beaucoup les chansons et la mélodie de Bob Dylan.
Alors, il y a tout ce que vous venez de dire et qui est, me semble, éminemment important. Et dans le cœur même de cette chanson qui évoque la solitude, il y a cette idée, me semble-t-il, que seul, contre tous et malgré tout continuer, une forme de résistance au mainstream aussi, parce que lorsque Bob Dylan a commencé à chanter, c'était pas du tout le style de chanson. Il y a quelque chose de complètement, il y a une coupure complètement révolutionnaire. J'aimerais vous citer Bruce Springsteen qui dit « La première fois que j'ai entendu Bob Dylan chanter, j'étais dans la voiture et ma mère écoutait WMCA et tout à coup, j'entendis ce son envoûtant comme si quelqu'un avait ouvert une porte dans mon esprit. De la même manière qu'Elvis libère ton corps, Dylan libère ton esprit et montre à tous qu'une musique peut être physique sans pour autant être anti-intellectuelle. Il y avait une manière de voir le monde bien à lui et un talent pour écrire une chanson qui contenait le monde entier. Il a inventé un nouveau son pop, a transcendé les limites de ce qu'on pouvait jusqu'alors enregistrer et il a changé la face du rock'n'roll. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à la fois de révolutionnaire et quelque chose d'un petit peu de cette résistance contre la majorité. Et je pensais à cette citation de Freud que vous rapportez, qu'il cite dans son autobiographie, où il parle de l'université où il entre en 1873. Et il dit, Freud, cette université m'apporta d'abord quelques déceptions. J'y rencontrais cette étrange exigence. Je devais m'y sentir inférieur et exclu de la nationalité des autres parce que j'étais juif. La première de ces prétentions qu'on voulut m'imposer, je ne m'y soumis résolument pas. Je n'ai jamais pu saisir pourquoi je devrais avoir honte de mon origine, c'est ce que vous avez dit, ou comme l'on commençait à dire, de ma race. Mais à la communauté de nationalité avec les autres, je renonçais sans regret. Je pensais en effet qu'une petite place dans les cadres de l'humanité pourrait toujours se trouver pour un collaborateur zélé, même sans un tel enrôlement. Cependant, une conséquence pour plus tard importante de ses premières impressions d'université fut de me familiariser de bonne heure avec le sort d'être dans l'opposition et de subir l'interdit d'une majorité compacte. Ainsi se prépara en moi une certaine indépendance en face de l'opinion. Émile Mallet.
C'est fondamental. C'est fondamental. La résistance à l'aspect moutonnier est fondamentale. Et notamment, il avait besoin, Freud, de cette résistance pour résister à la fois à l'académie qui ne voulait pas de la psychanalyse et au milieu ambiant, la Vienne de l'époque, qui était antisémite et xénophobe. Par rapport à ce qu'on a dit sur Bob Dylan, je voudrais juste citer un de ses admirateurs, celui qui a applaudi le prix Nobel de Bob Dylan, c'est Salman Rushdie. Ben, je vais vous dire, ça me paraît extrêmement important, parce que Salman Rushdie, comme chacun sait, a des origines musulmanes, et là, ça montre que le combat pour l'universalité n'est pas une opposition métaphysique entre juifs et arabes, et comme on essaie un petit peu d'instrumentaliser les populations, etc. Il y a une dimension d'universalité, et aujourd'hui, il nous faut beaucoup d'abnégation pour résister au climat ambiant. Alors, revenons à Freud. Il a fallu qu'il résiste à cette majorité compacte, et il a pu le faire, comme on l'a dit au début, parce qu'il était armé, en quelque sorte, par le bonheur d'être juif, il était armé aussi par sa volonté de connaissance. Je crois qu'aujourd'hui, il serait grand temps de casser les césures entre la tradition et la modernité, et de casser les césures entre ce qui serait professionnel et ce qui ne l'est pas. Et Freud nous a montré un cheminement très important. Il y a entre la clinique chez Freud et l'anthropologie, il n'y a pas de césure. Il ne faut pas considérer que ce qu'il a écrit pour la psychanalyse comme écrit théorique et ce qu'il a écrit comme anthropologie, malaise dans la civilisation, totem et tabou, ne font pas un tout. Au contraire, chez lui, il a estimé que travailler pour le sujet, c'était travailler pour l'universel et pour le faire, il fallait se débarrasser d'une identité compacte.
Alors merci Émile Mallet pour ces réflexions. J'avais encore beaucoup de questions, mais d'ailleurs ces réflexions qui font surgir des questions importantes et ouvrent des pistes et des lectures toujours à reprendre. Je rappelle le titre de votre livre, Freud et l'homme juif, avec une préface d'Aleph Beth Yehoshua, et je vous propose de continuer cette conversation la semaine prochaine, où nous aborderons un Freud plus politique, s'interrogeant sur son rapport au sionisme, à Israël et au nationalisme. Merci encore Émile Mallet.
Merci Marc Alain.
C'était Talmudique, une émission de Marc Alain Waknin, préparée avec Françoise-Anne Ménager, à la prise de son comme toujours, notre ami Philippe Palares, à la réalisation, comme toujours. J'ose pas dire notre ami Dany Journeau, mais si je pouvais, je le dirais. Ce soir commencera la fête de Shemini Atzeret et Simchat Torah, la fête de la Torah. Et ça va bien avec cette idée du juif de l'étude qui conclut les fêtes d'automne. Bonne fête à tous. Kol Tov, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.